Il est déjà 19h39, on accueille Philippe Quentin un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Bonsoir Philippe, tu nous en excuseras.
Ben, ça a été un plaisir, Mario, de pouvoir écouter tout le monde.
Ben, c'était ça le but, j'ai dit. Ouais. On va demander à Philippe d'arriver un petit peu plus tard ce soir, puis d'écouter les gars de hockey. Puis t'avais sans doute, même sans les écouter, des choses à dire sur la situation du Canadien. Puis peut-être qu'ils ont amené quelques éléments de réflexion sur lesquels, en tout cas, qui t'ont interpellé.
Écoute, je vais y aller d'abord avec tout ce avec quoi je suis d'accord. Je suis d'accord avec énormément de choses qui se sont dites, mais je vais y aller par intervenant.
OK.
Mario Tremblay, la chose qu'il a dite que j'ai trouvée particulièrement vraie, c'est que des échanges pour des gros joueurs de centre, ça se fait. On peut pas simplement se contenter de dire c'est trop difficile de faire une transaction. L'exemple dans la Ligue nationale, il y en a plusieurs d'équipes qui avaient besoin d'un joueur de centre important et qui sont allés le trouver. Alors ça, c'est certainement une tâche au dossier de Marc Bergevin de ne pas avoir réussi à trouver une solution à ce problème-là qui date pas d'hier. Là.
C'est
un problème qui est récurrent depuis des années, et certainement un problème qui était là quand Bergevin est arrivé et qui n'a pas encore réussi à régler. Alors, je pense que Mario a mis vraiment le doigt sur quelque chose d'assez fondamental.
Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis on parlait de leaders négatifs. Tu peux avoir du bon monde qui peuvent donner des leaders négatifs. Je ne sais pas si ça t'a
surtout ce que Benoît a dit, Benoît Brunet, qui parlait justement du manque de leadership, et puis tu as eu le flair de refaire écouter cette citation de Serge Chavard à propos de Shea Weber. Et ça, il faut l'avouer, là, c'est un constat d'échec jusqu'à maintenant. Pas le rendement de Weber sur la patinoire, mais puisque Marc Bergevin nous a dit qu'un des problèmes de la saison 2015-2016, ça avait été l'incapacité de l'équipe à réagir dans l'adversité. Il a dit la journée de l'échange, on a eu un manque de leadership avec Weber. Là, on va régler ça. C'est un pas dans la bonne direction. Et là, on voit l'équipe empêtrée dans des difficultés et être incapable de s'en sortir. Oui, il y a eu une période là, qui a été un peu plus encourageante, mais tu sais, ça revient toujours à la même chose avec cette équipe-là. C'est l'équipe d'un joueur. Puis à la fin, tu parlais avec Daniel Brière de la terrible blessure de Carson Wentz, le carrière des Eagles de Philadelphie. Hier, saison terminée, les Eagles qui perdent probablement leur chance de remporter le Super Bowl, alors qu'ils étaient certainement parmi les favoris, ils jouaient tellement bien. Et moi, je trouve, c'est drôle, j'écrivais ça l'autre jour, mais pour moi, le Canadien de toutes les équipes de la Ligue nationale, c'est celle qui ressemble le plus à un club de la Ligue nationale de football. Parce que tout est basé sur un joueur. Si ce joueur-là n'est pas capable de performer au maximum, l'équipe s'écroule. Alors, si le gardien n'est pas là pour gagner des matchs, peut-être pas à lui seul, mais presque, à inspirer ses coéquipiers, à agir comme troisième défenseur, s'il fait pas ça, s'il répète pas ses miracles, l'équipe ne gagne pas. Et ça, tu vois ça dans la NFL. Quand le quart arrière vedette est blessé, cette année, c'est Carson Wentz à Philadelphie. Il y en a d'autres aussi qui ont été blessés au fil de la saison.
Oui.
Pense à Aaron Rodgers avec les Packers de Green Bay. L'an dernier, Derek Carr à Oakland avec les Raiders. Saison magique des Raiders, il se fait blesser juste avant Noël et les Raiders ne vont pas loin en série. Mm-hmm. Alors, c'est le Canadien, c'est ça. Et là, tu vois, par exemple, les Maple Leafs de Toronto. Austin Matthews a raté plusieurs matchs récemment et les Maple Leafs ont continué de gagner. Canadien, quand Price n'est pas au sommet ou s'il est blessé, c'est une équipe qui s'écroule. Et ça, à quelque part, c'est pas normal.
Et donc, c'est pas les joueurs qu'on a mis en avant, puis on n'est pas sûr que ça s'est amélioré, qu'ils sont capables de renverser la tendance. Parce que je me disais, tu sais, un soir comme samedi, Carey, disons, a pas un bon départ, donne un mauvais but, deux mauvais buts. Si tes coéquipiers, parce qu'ils disent toujours ça dans un quote, dans un clip d'après-match, là, hey, il nous en a tellement gagné, tu sais, comme quoi on peut pas le blâmer jamais de rien parce qu'il a tellement arrêté de rondelles pour l'équipe, etc. Mais quand est-ce qu'on y redonne ça? Tu sais, il y a comme une synergie d'efforts dans un groupe. Tu sais, quand t'es gars en difficulté, tu fais quoi? T'en donnes deux fois plus.
Et
malheureusement, on n'a pas vu ça, en tout cas, dans trop de matchs.
On voit pas ça du tout chez le Canadien et c'est ça qui est inquiétant. Et là, tout à coup, tu sais, je sais qu'on va parler beaucoup des caractéristiques du jeu. Bon, on vous parliez tantôt avec beaucoup d'à propos du système de jeu. Est-ce que les gars embarquent dans le système de jeu de Claude Julien? D'autres vont segmenter le match. Tu sais, les batailles à un contre un. La relance de l'attaque. Tu sais, on peut segmenter à l'infini, mais presque un match de hockey. Donc, on peut toujours identifier des éléments qui ne fonctionnent pas, puis bon, il faut travailler là-dessus. Ça, c'est correct. Mais d'un autre côté, il faut poser la question qui, à mon avis, chapeaute toutes les autres. C'est est-ce que Claude Julien a en main les éléments pour travailler puis pour avoir une équipe qui va lutter pour les séries éliminatoires. À mon avis, le problème, il est là. Je pense pas que le Canadien est une équipe des séries éliminatoires. On l'a vu dès le début de la saison, les lacunes de cette équipe-là, ça a commencé très difficilement. Le voyage dans l'Ouest, en Californie, a été catastrophique. Et là, oui, il y a eu le rebond, tout à coup, 5 victoires consécutives, mais une équipe comme le Canadien, qui s'est creusé un tel trou en début d'année, a presque plus de marge d'erreur. Alors, non. Tu gagnes 5 matchs en ligne, mais c'est pas suffisant pour t'extirper, parce qu'il faudrait que tu continues presque, peut-être pas au même rythme, mais t'as pas vraiment la
Il faut pas que tu colles 3 défaites comme cette semaine.
Ben voilà, surtout à domicile.
En plus, puis il va y avoir d'autres voyages, 7 matchs à route qui s'en viennent très bientôt.
T'sais, aussi, vous avez parlé d'autre chose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir tout à coup la vente des barras, un peu comme les expos dans le temps. Là, quand
Buffalo se prépare à le faire, semble-t-il. Ottawa y songe, on va voir. Ben,
mais tu sais, on parlait de la date, à quel moment ça pourrait arriver. Je sais que Mario mentionnait peut-être au retour du voyage, puis c'est vrai que si ce voyage de 7 matchs là, dans le temps de Noël est vraiment pas bon, ça va certainement être une possibilité, puis il va falloir que la direction du Canadien prenne acte de ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a trois matchs là, qui sont très, très importants, qui vont peut-être déterminer un peu la saison du Canadien. Et ces trois matchs-là, Mario, ils ont lieu au milieu du mois de janvier. Et pourquoi ce sont 3 matchs importants? C'est parce que le 13 janvier, le 17 janvier et le 20 janvier, le Canadien joue contre la même équipe. Et cette équipe-là, ce sont les Bruins de Boston.
Aye, aye.
Et là, on le sait que pour participer aux séries éliminatoires, il va falloir que le Canadien rattrape les Bruins. Il risque d'avoir seulement 3 équipes de cette division-là. Probablement que Tampa Bay et Toronto vont trôner en tête jusqu'à la fin. Donc, l'équipe qu'il faut rattraper, c'est les Bruins de Boston. Alors là, tu auras une chance en or, en 8 jours, 3 matchs contre les Bruins de Boston. Le dernier, c'est le 20 janvier. Si ça ne se passe pas à ce moment-là, je pense que ça va devenir presque impossible.
C'est bon, tu vois, j'avais pas cerné ce moment-là dans le calendrier. C'est bon que tu l'amènes dans la discussion parce qu'effectivement, tu pourrais faire un pas de géant en quelques jours si tu es encore dans la course à ce moment-là.
Si.
Évidemment, c'est la condition.
Gros si. Ouais.
C'est tellement imprévisible hein, au moment où.
Puis Boston va très bien, ça. À l'heure actuelle, mais tu sais, on sait tous que même si c'est une solide équipe, est-ce qu'ils vont être capables de maintenir ce rythme-là? Ça, c'est une question dont la réponse demeure en suspens. Là. C'est une bonne équipe.
Aussi, ils n'ont pas d'équipe parfaite. Là.
Ben,
ils ont des défauts.
Exactement.
Il y a peut-être des éléments, des blessures. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là, où c'est très difficile de se mouiller. Est-ce que d'autres éléments sur lesquels, par rapport à ce sujet-là,
je pense que quand
Philippe,
t'écoutes Danny qui parle aussi des
équipes
dures
à coacher, hein?
Ouais, puis le problème du Canadien en début de match, puis les erreurs qui se répètent et tout. Tu sais, quand t'écoutes d'ailleurs la description des matchs de Martin et Danny, puis t'écoutes ça, puis tu remarques le nombre d'erreurs au fil du match qu'un expert comme Danny va noter, c'est quand même assez étonnant. Il me semble que quand tu l'écoutais dans les dernières années, t'en notais pas autant parce qu'il n'y en avait pas autant. Tu sais, et là, cette année, c'est un peu le festival des jeux qui sont mal faits, puis Danny les note, puis c'est ça, ça donne ce que ça donne.
Exact. Exactement, et je vais te dire une affaire, ça amène un élan de lucidité sans doute chez les dirigeants du Canadien, un élan qui était peut-être déjà là, mais
je sais pas.
J'ai pas le temps pour me relancer dans une autre affaire parce que on va se reparler mercredi de toute façon, mais on pourrait, c'est sûr qu'on va continuer cette discussion-là, il rejoue pas de toute façon avant jeudi, mais à moins qu'on complète la discussion là-dessus, voulais-tu parler de baseball, de Stanton et compagnie? C'est quand même gros là, ce qui est arrivé avec les Yankees.
Bon, c'est énorme ce qui arrive, cette transaction-là, qui va faire des Yankees une équipe tellement redoutable. Mes premières pensées vont aux Blue Jays de Toronto. Tu sais, les Blue Jays qui se retrouvent dans la même division que les Yankees. Il y a déjà les Red Sox qui sont très solides. Et là, avec les Yankees qui vont devenir tellement puissants à l'attaque, tu te demandes comment une équipe comme les Blue Jays de Toronto va pouvoir se relever de ce coup de massue-là. Eux qui luttent dans la même division, les Yankees sont jeunes, sont talentueux, ils sont explosifs. Théoriquement, là, ils ont l'avantage dans cette division-là pour des années à venir. Puis c'est sûr qu'un gars comme Stanton, son salaire, c'est absolument incroyable. Il lui reste 10 ans à son contrat, près de 300 millions de dollars que les Yankees lui devront. Les Marlins vont contribuer. Là, je pense qu'ils vont faire un chèque de 30 millions selon certains paramètres. Là, qu'est-ce qui va arriver avec Stanton parce qu'il peut se libérer de son contrat. Tout ça est un peu complexe, mais là, pour l'instant, il va rester là. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais tu regardes l'impact qu'un gars comme lui va avoir dans le marché de New York, l'impact sur les cotes d'écoute des matchs des Yankees à la télé, l'impact sur les assistances qui ont eu des petits problèmes. Les Yankees, dans les dernières années, c'était pas aussi bon qu'il y a 6 ou 7 ans. L'impact sur la vente de produits dérivés. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais moi, je suis convaincu que même économiquement parlant, les Yankees vont sortir gagnants de l'acquisition de Giancarlo Stanton. C'est l'histoire de l'entre-saison au baseball. C'est énorme comme acquisition et ça rebrasse les cartes dans tout le baseball majeur.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as évoqué par rapport aux Blue Jays de Toronto, puis je peux pas m'empêcher de penser au fait que si les Expos revenaient, ils seraient dans la même division que ces clubs-là.
Puis je me dis,
on est-tu vraiment le marché qui va soutenir son équipe pendant 40 ans sans gagner?
Ah, ça, c'est une bonne question. On va le faire depuis bientôt 25 ans avec le Canadien. Est-ce qu'on va le faire avec les Expos 2.0 s'ils reviennent? Je ne sais pas. Ça va être plus difficile qu'avec le Canadien, c'est sûr, parce que c'est pas le même rapport. C'est pas ancré dans notre histoire, dans notre inconscient collectif de la même façon que le hockey, ça, c'est sûr. Mais regarde, je pense que les gens aussi s'adaptent un peu. Prends l'Impact. L'Impact a eu quand même une bonne saison. Je pense qu'il faut pas que tu coupes l'espoir. Puis je pense que le problème d'une équipe comme les Alouettes, si on reprend nos trois équipes à Montréal, c'est qu'il n'y a plus d'espoir avec les Alouettes.
Non.
Avec l'Impact, il y a de l'espoir. T'sais, regarde cette année, là.
Oui. En 10 secondes,
le camp d'entraînement va commencer en janvier. Tout le monde va repartir regaillardi. Un nouveau coach, renommé. Ils vont peut-être faire l'acquisition d'un ou deux nouveaux joueurs. Ils vont avoir de l'espoir en début de saison. Puis ça n'a pas été une catastrophe la saison dernière. Ça n'a pas bien été, mais ça n'a pas été catastrophique. Les Alouettes, c'est une catastrophe. On attend encore de savoir qui va diriger cette équipe-là. Il n'y a pas de nouvelles encore.
On se reparle mercredi, puis au plaisir de te voir demain, Philippe. Notre souper. Attention à toi. Bonne soirée.
Excellent, salut.
Et on revient. Bye-bye.